Mais il s'agit vraiment du crâne de quelqu'un. Il s'agit du crâne d'Adam. La tradition nous dit du 10e siècle avant Jésus-Christ, on nous dit que Abraham, lors de sa venue par ici à Jérusalem, il a cherché avec lui dans l'endroit tout près du roi desquels, des monastères de Saint-Georges de Cosiba, dont nous a parlé le père l'autre jour, bien l'a invoqué, il l'a mentionné. Il a amené avec lui le crâne d'Adam et l'a fait enterrer ici. Et cette tradition était bien acceptée depuis le commencement de l'Église pour la raison symbolique de cette tradition que ici nous sommes en dessous du calvaire et que Adam est inférieur et que le Christ est supérieur. Et si vous demandez des grands théologiens quel moment le salut était achevé, ça va vous dire, ils vont vous dire que c'était plutôt quand le côté de Jésus était percé par la lance du soldat romain et que du sang et de l'eau est tombé, ou bien ont collé de son côté. Et c'est dit par la tradition que ce sang et cette eau est tombé dans la fissure de roche jusqu'au point où se trouvait le crâne d'Adam. Et c'est là quand le péché était effacé.
C'est une piscine qu'on appelle en hébreu Betsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat.
Voilà. On entend la suite est
la pointe religieuse, donc c'était un jour de sabbat.
La suite est formidable.
Mais, alors qu'on pensait que Saint Jean était un évangile spirituel surtout, par tous les détails, on constate qu'il connaît bien les lieux, qu'il connaît bien les traditions juives, etc. Il nous dit une piscine à 5 portiques. Vous dites, bon, il a inventé tout ça, il a inventé. Mais non, pas du tout. Cette piscine s'appelle Bethesda ou Bethesda, peu importe, c'est le même genre. Près de la porte, la piscine des brebis. Et donc à l'entrée du mur, on a aujourd'hui aussi une porte qui s'appelle la porte des brebis. Voilà. Donc les détails qu'il nous donne, et on attendait qu'il plonge dans les eaux bouillantes, les détails qu'il nous donne ont tous été révélés par l'archéologie. Voilà. Alors que ça n'a pas été fouillé depuis très longtemps, hein, ça. Je veux dire, c'est à peine depuis ces 40 dernières années, 40 ou 50 dernières années. Eh bien, les archéologues ont trouvé exactement ce que Saint-Jean nous raconte. On dit, mais une piscine à 5 portiques, qu'est-ce qu'il chabraque? Eh bien, en fait, il y avait des colonnades sur les 4 côtés, et comme le bassin est séparé par un mur, il y a une colonnade ici aussi. Voilà les 5 rangées de colonnes. Et puis les bains, eh bien oui, on les a retrouvés aussi dans la structure, etc. Voilà. Que Marie a grandi, elle a grandi, et où est-ce qu'elle a été éduquée? Elle a grandi dans la proximité du temple. Dans la proximité du temple, eh bien, la maison de Anne et Joachim a été localisée ici. Voilà pourquoi les Byzantins d'abord, et puis les croisés, et puis ensuite les Pères Blancs sont venus investir ce lieu en l'honneur de Sainte Anne. Voilà. Donc, Sainte-Anne. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, l'évangile de Saint-Jacques a été écrit.
Le protévangile de Saint-Jacques, on dit, eh bien, a été écrit au deuxième. Enfin, les manuscrits sont postérieurs, au quatrième, tout ça. Mais les traditions remontent au second siècle au moins. Donc, elles ont circulé dans toutes les églises, et même si. Le canon des Écritures n'a pas reconnu tous ces écrits, mais ça a beaucoup inspiré, quoi. Tout le monde s'en est servi, tout le monde s'en sert pour expliquer tel ou tel mystère de la vie chrétienne.
Thank you.
pas de chant choral.
Oui. On va chanter quand même au nom d'Estelle de la Main. On va commencer par Mette Salut Marie et Estelle de la Main. Et les Vasquez, pour chanter, bien qu'on ait la main, bien sûr. Alors, donc, encore une fois, nous sommes dans une église typiquement romane. Même si c'est un peu mixte, mais romane. Avec des murs épais, des colonnes épaisses. Une grande sobriété dans la décoration. Ensuite, après le chant, vous pouvez faire le tour par la crypte, qui est découverte. Par la crypte, pour aller voir le lieu de naissance de Marie. On descendra par là. Alors, puisqu'on est dans l'église de Sainte-Anne, ici a été éduquée Marie dans la tradition d'Israël, après avoir été elle aussi présentée au temple. Eh bien, nous allons la prier. Comme intention, mais nous demandons qu'elle garde toutes nos familles et tous ceux que nous aimons bien. Et comme elle a été éduquée, que nous sachions aussi être des éducateurs, des transmetteurs de bonnes nouvelles. Je te
salue. Salut Marie, auprès de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, auprès de grâce, et Jésus, le Fils de
Dans quelle
langue? Espagne.
Espagnol.
Francia.
Francia.
Si. Dax. Bayonne.
Bayona.
Dax.
Tengo yo una hija en Lyon.
Qué bonito ha sido. Qué preciosidad. Qué bonito.
Nous sommes dans un véritable livre d'images. Et les chrétiens ici, s'ils s'ennuient au moment de l'homélie, n'ont qu'à lever les yeux. Et l'image va accrocher leur regard et sans doute suggérer un commentaire dans leur cœur. Mais je ne vais pas commenter les images. Je vais commenter simplement le texte que nous voulons entendre. Et quand nous entendons le texte, forme dans notre intelligence tout un tas d'images. Le texte est aussi une image. Le texte parle au moyen d'un texte, l'image parle au moyen de l'image, avec ses codes. Et d'ailleurs, les codes, ce ne sont pas des peintres qui les dessinent, mais ce sont des iconographes, c'est-à-dire des écrivains d'images. Ici, ce sont des écrivains de textes qui nous transmettent la bonne parole. Aujourd'hui, c'est donc le récit d'Emmaüs qui nous émeut beaucoup. En tout cas, il nous parle immédiatement. Il nous ressemble presque. Le premier code qui ne vous a pas échappé, commençons à le connaître maintenant, s'agissant de Saint-Luc, c'est tout ce qui se passe autour du regard, de la vue, du voir. Certes, les disciples ont vu les derniers événements, ce qui s'est passé dans la semaine sainte, mais sans comprendre. Ils attendent, ils ont dans leur tête une image de Jésus, qui est celle du Messie, c'est-à-dire d'un roi qui devait venir libérer de l'oppresseur, libérer des Romains, rendre la terre à Dieu, dans son intégralité, dans son intégrité. Cela, ils avaient cette image en tête. Pourtant, Jésus a essayé, tout au long du chemin qu'il a conduit à Jérusalem, de purifier ces images pour essayer d'en comprendre le sens et d'aller au plein aboutissement. Tout se passerait à Jérusalem. Ils y étaient à Jérusalem. Ils n'ont pas compris. Alors ils reviennent chez eux, tout tristes. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. De le reconnaître. Pourtant, ils l'avaient connu. Mais de le reconnaître. De le connaître de nouvelles manières. Alors, eh bien, leur périple est un peu le nôtre. Il aboutira pour eux à l'ouverture des yeux. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent à la fin. Mais je crois que notre itinéraire de chrétiens, d'hommes et de femmes, s'inscrit dans ce même itinéraire. Nous avons des images dans notre tête et nous aimerions bien que la réalité corresponde à notre imaginaire, à nos images, à nos représentations. Et le Christ est là pour nous dire, mais à chaque fois, il faut vous purifier de ce que vous pensez être vrai à mon sujet, au sujet de la révélation, au sujet de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour être chrétien ou pour appartenir à l'Église. Et à chaque fois, Jésus viendra purifier notre regard et nous irons de vision en vision, c'est-à-dire d'une vision qui se purifiera au fur et à mesure et sans doute, espérons-le, dans le chemin de la foi, qui s'approfondira pour essayer de voir et de reconnaître à notre tour le Christ. Cet itinéraire du voir physique au voir spirituel, on pourrait dire, c'est le nôtre. Et sur cet itinéraire s'inscrit nos propres déceptions dans l'ordre de la foi. Où est la foi d'antan? Où est la foi de nos enfances? Il a fallu l'approfondir, il faut toujours la purifier. Même dans ces lieux saints, on ne reconnaît plus les lieux authentiques de Jésus. Non, c'est sûr. Et pourtant, dans notre tête, il y avait des images bien claires. Mais il nous faut les déconstruire pour reconstruire et repartir avec une foi peut-être plus purifiée, en tout cas plus tournée vers la réalité de Jésus lui-même qui est maintenant vivant et ressuscité. Mais nos déceptions peuvent venir de la foi de tous les jours, de notre vie de tous les jours. Ça peut, on entend souvent dire que Dieu n'est pas là, Dieu nous a laissé tomber, il n'est pas venu à notre secours. Quand nous sommes atteints de tout un tas de choses contraires, comme la maladie par exemple, ou toutes les déceptions que nous pouvons connaître. Alors nos déceptions, elles s'inscrivent dans le cheminement des disciples d'Emmaüs, jusqu'à ce que quelqu'un vienne marcher avec nous, et que nous puissions à notre tour le connaître à nouveau, le reconnaître, le connaître d'une nouvelle manière. Alors quelquefois ce sont des sentiments de joie et d'enthousiasme qui nous habitent. Alors à ce moment-là, eh bien, il faut essayer de les conserver, de les cultiver, mais aussi de les purifier. Comme on disait hier soir, la foi, ce n'est pas la simple émotion, même si l'émotion participe de la foi, évidemment. La reconnaissance envers Jésus viendra aussi par nos merci. Tout à l'heure, nous le ferons au moment de la communion. Dire merci. Et le pape insistait beaucoup en disant, oui, il y a trois mots qui sont importants. Dire merci, d'abord, dire bonjour, dire merci et dire pardon, demander pardon. Il résume toute la vie en ces trois mots, et déjà, si on les inscrit dans notre itinéraire, c'est pas mal, avec toutes les composantes après. Mais la reconnaissance aussi vient par la lumière d'une explication, la lumière d'une parole de Dieu, la lumière du Christ lui-même qui leur ouvre l'intelligence. Et c'est le titre de la déclaration du pape pour l'année de la parole, enfin en tout cas, ce qu'il souhaite devenir le compagnon de tous les jours, la parole de Dieu. Aperuit illis, il leur ouvrit l'intelligence au sens de l'écriture. Il leur ouvrit l'intelligence. Alors eh bien, nous aussi, nous avons besoin de cette explication du Christ lui-même, pas simplement l'explication d'un dictionnaire ou d'un répétiteur, mais du Christ lui-même qui vient éclairer la parole pour nous dans notre cœur. Et ce qui nous parle ne parlera pas nécessairement aux voisins. Chacun a besoin de faire son itinéraire, même si nous avons à témoigner, même si nous avons à accompagner, même si nous avons à devenir comme le Christ qui fait un bout de route avec les gens. Mais nous ne sommes pas le Christ. Nous renvoyons toujours à plus haut le Christ lui-même. Alors, s'agissant d'images, pendant l'évangile, j'ai été appelé par l'évangéliste Saint-Jean, et le regard de Saint-Jean ancien, la barbe blanche, qui dicte un jeune écrivain, sans doute, peut-être le même, mais le Christ regarde, pardon, Saint-Jean regarde le Christ ressuscité, c'est lui le seul interprète. Et Saint-Jean nous indique que le Christ est l'exégète du Père, c'est lui qui nous l'a révélé, c'est lui qui nous hisse au niveau de Dieu. Alors, Saint-Jean n'est pas rivé sur sa lecture ou bien sur son écriture, mais il regarde vers le ressuscité. Alors, bien, nous aussi, bien, nous demandons que notre reconnaissance s'inscrive par la joie, nos merci, par l'éclairage nécessaire, mais aussi par des gestes d'amitié qui sont constitutifs de nos communautés chrétiennes, qui devraient l'être dans tous les cas. Eh bien, quel est l'aboutissement de cela? Pour que nous entrions dans la plénitude, non pas de l'émotion, mais la plénitude de ce qu'est le Christ lui-même. Le grec a un joli mot employé pour dire cela, c'est le plérome, on ne sait pas le dire en français, mais la plénitude du Christ, qui donnera peut-être la plénitude de ce qu'on peut dire de notre religion, quand on l'appellera la religion catholique, c'est non seulement la religion universelle, mais la religion selon le tout, c'est-à-dire en tenant tous les éléments. Or, nous savons voir de nous que des choses partielles. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir une église universelle qui nous ouvre les yeux sur des réalités que nous ne soupçonnons pas. Par exemple, les femmes du Zimbabwe qui aujourd'hui mèneront toute une réflexion dans le concours de la prière. Nous n'avons pas leur texte, mais c'est prodigieux le cheminement qu'elles font faire. Alors, eh bien, c'est cela, la plénitude, la catholicité, l'entièreté du mystère du Christ, on pourrait dire. Et tout cela, eh bien, ne serait pas tout à fait accompli si les disciples d'Emmaüs, ayant reconnu, ayant eu leurs yeux ouverts et le cœur tout brûlant, ne reprenaient pas la route pour monter à Jérusalem. Jérusalem, le lieu de la reconnaissance de Jésus, justement dans le collège des apôtres réunis, et chacun, vous l'avez entendu, dira comment il a rencontré le Christ. Et c'est le témoignage de l'Église envers le Christ ressuscité, et non pas le témoignage individuel du Christ ressuscité. Vous voyez la différence ? Nous sommes essentiellement une communauté croyante. Nous ne sommes pas des individus croyants. La plénitude de la reconnaissance de la foi se fait toujours dans l'Église, à l'Église. Souvenez-vous, le collège des apôtres nouveaux, celui des cardinaux, sont 120 pour composer l'Église du départ en attente de l'Esprit Saint, recevant l'Esprit Saint, éclairé par l'Esprit Saint. Alors, eh bien, demandons simplement à l'union avec tout ce que Luc nous raconte. Ce Jésus est venu pour que nous ayons la vue. Les disciples d'Emmaüs ont retrouvé la vue, la claire vision de Jésus. Mais il faudra encore passer la résurrection et les enseignements pour que Jésus, une dernière fois, dise qu'il n'est pas le Messie selon les images qui traînent dans nos têtes. Mais il est le Messie en ce sens que maintenant, c'est à l'Église entière de devenir des témoins en ayant reçu l'Esprit Saint pour témoigner depuis Jérusalem, en passant par la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ces extrémités ne sont pas seulement géographiques. L'extrémité, c'est le plus profond de notre cœur, le plus profond de notre intelligence. Il y a partout des zones d'ombre, il y a partout des zones d'obscurité, des choses que nous ne comprenons pas bien, des terres en nous-mêmes à évangéliser. Fais, Seigneur, que je vois clairement.
Sure.